RCF.
Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes avec les neveux de René, une émission consacrée à la découverte de la philosophie. Nous continuons notre travail avec Karl Marx.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Vous êtes avec Nazim Fattès, avec moi sont à ma gauche Anne Bonneau, Nicolas Schnepp et Sylvain Contasso-Vivier. Nous avions abordé la semaine dernière ce texte qui s'appelle « Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel » par Karl Marx. Et nous avions vu comment lire ce texte en nous attachant à quelques aspects du texte, donc pour tendre l'oreille au message qu'essaye de passer Marx, et en particulier, on avait vu que ça commence par une critique de la religion, avec cette fameuse formule qui est « la religion est l'opium du peuple ». On a essayé de la resituer dans quelque chose de plus vaste, notamment par exemple un dialogue avec Platon, le rôle de l'histoire, le rôle de la philosophie. Et donc nous continuons à cheminer avec ce texte qui est extrêmement riche, qui est un texte d'un Karl Marx enflammé, et qui a beaucoup à dire. Je te vois sourire, Anne. C'est à propos du ton de Karl Marx, c'est
oui,
ça
oui, oui, oui,
oui, tout à fait. Alors, on va essayer de le voir. Est-ce que tu veux justement nous mettre en contact, sans trop tarder, avec le texte, et voir ce qu'il nous dit? Alors, page 24 de cette édition chez Alia. Alors, on rappelle à nos auditeurs que pour 6,20€, ils peuvent se procurer une édition qui est parue, une publication parue aux éditions Alia en 2018. Il existe aussi une version bilingue de ce texte parue chez Aubier. Voilà. Alors, donc page 24, c'est le cœur du texte, et là, on va rentrer vraiment dans le questionnement philosophique. C'est Karl Marx qui va nous amener à réfléchir sur l'être de l'homme.
Il est évident que l'arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes. La force matérielle ne peut être abattue que par la force matérielle. Mais la théorie se change, elle aussi, en force matérielle dès qu'elle pénètre les masses. La théorie est capable de pénétrer les masses dès qu'elle procède par des démonstrations ad hominem. Et elle fait des démonstrations ad hominem dès qu'elle devient radicale. Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Or, pour l'homme, la racine, c'est l'homme lui-même.
Alors, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est problématique. Hein, ça nous pose des questions. Alors, quelles sont vos réactions?
C'est pas facile. Non, c'est pas facile.
C'est pas facile.
Nicolas, tu veux dire deux mots peut-être?
Oui, bah, je peux bien. Bah, c'est une question qu'on peut se poser, parce que finalement, pour l'homme, l'être suprême est l'homme. C'est une question qui est quand même assez questionnante, parce que dans un contexte où l'homme finalement fait partie de l'étang, donc fait partie de tout ce qui est, est-ce qu'on peut le considérer comme pouvant s'autofonder à partir de lui-même?
Voilà. Alors, Marx ne parle pas vraiment d'auto. Fondation, mais c'est ça dont il s'agit, c'est-à-dire est-ce que je définis mon être, ce que je suis, à partir de moi-même, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me donne la direction avec laquelle je me définis.
Sylvain, par rapport à la question de départ sur ce passage, qui est quand même pas simple, hein, parce que
non,
la force matérielle,
il est pas simple.
Peut être abattu par la force matérielle, mais globalement, ce qu'il dit, c'est que vous voyez, la réflexion théorique peut aussi devenir une arme, enfin un élément de combat, à partir du moment où il y a vraiment suffisamment de personnes et une population qui va s'en imprégner, qui va pouvoir utiliser cette arme-là. Quoi.
C'est ça. C'est-à-dire donc, il ne s'agit pas seulement de penser tout seul dans son coin,
c'est ça.
Mais d'arriver à une organisation sociale qui traduise quelque chose penser théoriquement.
Voilà. Et en fait, bon, là, c'est pas directement dit dans le passage là, mais globalement, ce que Marx explique, c'est qu'il y a un chemin qui se fait plutôt de l'aspect matériel vers d'abord la théorie, en fait, pour pouvoir après revenir sur une expression matérielle.
Alors ça, c'est curieux. Enfin, ça, c'est très curieux. Parce que du matériel vers la théorie, on a du mal à saisir.
C'est une forme d'induction, finalement. C'est quelque chose qui relève d'un empirisme. En fait, on part d'une observation du matériel et on sait jusqu'au principe, finalement.
D'accord. Donc, on va dire, par exemple, tous les gens ont besoin de manger, donc il faut que je développe l'agriculture ou des choses comme ça.
Ce genre de choses, enfin, c'est au cœur du questionnement scientifique, ça, finalement. C'est de dire, j'observe, je fais des observations de la réalité et à partir des observations, je déduis une loi générale qui caractérise l'ensemble des observations que j'ai faites.
Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, Nicolas. Je ne suis absolument pas d'accord. Je suis radicalement pas d'accord.
D'accord.
Parce que la science ne travaille pas comme tu l'as dit, d'après moi, je vais te dire pourquoi et puis tu pourras me répondre, c'est qu'elle a déjà en vue une forme donnée des résultats qu'elle doit obtenir.
Oui, tout à fait.
Qui sont mathématiques, par
oui,
exemple.
Oui, c'est ou ça,
qui
bah,
sont,
c'est une expression mathématique.
C'est
tout
ça.
Tout à fait.
Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais dire une chose, l'artiste ou le poète, il va saisir une réalité. Disons même la réalité que saisit Marx. Par exemple, le travail des enfants à l'usine. Eh bien, il va se saisir de cette réalité en faisant une œuvre, qui va en faire une sculpture, qui va en faire un roman, comme Balzac a pu le faire, etc. Mais scientifiquement, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je suis obligé de travailler avec des chiffres, des statistiques, etc. Donc, quand même, la science, ce n'est pas que saisir le réel, c'est le saisir sous un mode particulier, hein,
c'est
d'accord.
C'est vrai.
La modélisation.
Oui, tout à fait. Alors voilà,
pour revenir à cette histoire de théorie, en fait, qui vient d'abord du matériel, il le dit un peu plus loin. Il dit bien que la théorie n'est jamais réalisée dans un peuple que dans la mesure où elle est la réalisation des besoins de ce peuple.
Oui,
donc,
on va y revenir.
En fait, on voit qu'il y a les besoins du peuple qui induisent une pensée. Et après, cette pensée peut être utilisée elle-même pour revenir en fait en combat, enfin entre guillemets, en opposition à ce qui est au présent.
Ça, on va y revenir un peu plus tard dans l'émission parce que je pense que cette question-là doit être éclaircie de nouveau.
Chemin de pensée sur RCF.
Anne, est-ce que tu veux réagir par rapport à ce passage
que
tu viens de dire ?
Donc il y avait l'importance de la théorie, donc ça qui était important parce que c'est un des grands sujets de son texte. Et moi, je m'interrogeais sur l'homme lui-même et sur ensuite ce qui suit sur l'homme, l'être suprême. Et je me demandais s'il ne voulait pas revenir un petit peu à l'homme par opposition à Dieu, justement, par opposition à ce qu'il nous a dit sur la religion, le replacer au centre de tout débat, viser à son bien. Et ensuite, ce qu'il va nous dire tout au long du texte, c'est qu'en fait, il faut une seule classe, il ne faut pas plusieurs classes. Et donc, il va parler de l'homme en soi, et cet homme en soi, et ce bien qu'on va chercher pour l'homme, c'est un peu ce qu'il annonce là, à mon avis, dans ce texte-là. Pour moi, c'est ça un petit peu, cette radicalité.
C'est un petit peu
la manière dont je comprends ce texte, qui n'est pas si facile que ça
à
comprendre.
Voilà, il n'est pas si facile.
Hein, mais bon.
Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais déjà, je vais en poser une qui est assez directe. Précisément, au temps où nous sommes face à une catastrophe écologique où la Terre est en prise à des destructions sans précédent, est-ce qu'on ne peut pas se dire justement qu'un homme auto-fondé, il y a quelque chose qui peut nous questionner à nous, habitants du 21e siècle, première chose. Et deuxièmement... c'est ce dont on débat actuellement dans l'actualité sur ces histoires de biologie avec l'histoire de PMA, GPA, etc. Est-ce que là aussi, est-ce qu'un homme auto-fondé qui se donne lui-même ses propres modes de reproduction n'est pas quelque chose qui doit nous questionner ?
Comme on en a déjà discuté, c'est vrai que l'homme, fait, philosophiquement parlant, fait partie de l'étang. Il fait partie de ce qui est, et finalement, il a un mode d'être qui préexiste déjà. Et c'est une vraie question qu'on peut se poser. Finalement, c'est est-ce qu'on peut chambarder tout ça sans qu'il y ait des conséquences qui se passent justement par rapport à cet être de l'homme.
Tout à fait. Mais tu dis l'être est déjà là de l'homme. Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Disons que c'est par rapport, parce que finalement l'homme est l'aboutissement de processus divers. Il fait déjà partie d'une certaine manière de ce qui est, mais ne serait-ce que matériellement. Il y a peut-être une organisation qui a pensé, mais l'être en tant que le corps de l'homme existe déjà quelque part, ou en tant qu'espèce peut-être, pourrait-on dire.
Oui, mais si elle existe en tant qu'espèce, si l'homme a accès à la raison, qu'est-ce qui lui empêche de la modifier, au fond?
Rien, entre guillemets.
Voilà. Donc,
si ce n'est bien sûr les limites techniques.
Si ce n'est que les limites techniques. Donc, la réponse, première réponse donnée par Nicolas, me semble pas pouvoir fixer l'homme dans des limites. Parce que si on considère l'homme uniquement sous l'angle biologique, rien ne nous empêche de le changer. Parce que, de toute façon, les espèces, elles ont changé, on va dire, pourquoi tu... Donc, si l'homme veut se donner une forme, il faut qu'il tire sa forme d'un autre substrat que le substrat biologique. Et là, je trouve qu'on peut rentrer en dialogue avec Marx. Anne, tu voulais réagir?
Non, je me disais juste qu'il y avait aussi des limites éthiques quand même modifications.
Qu'appelle-t-on éthique, justement, parce que éthos, c'est justement que l'homme aurait une façon d'habiter le monde. Et je crois que c'est ça que les philosophes, longtemps, ont eu à l'idée. Et c'est peut-être ça aussi que tu as en idée quand tu dis l'homme est un étang parmi d'autres, c'est-à-dire il est fait partie d'un cosmos.
C'est ça, oui.
Voilà.
Mais il me semble que ça aussi, c'est très typique de notre société. Et depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours un petit peu pensé comme ça. C'est pas forcément typique des sociétés amérindiennes ou d'autres sociétés qui se sentent plus peut-être comme faisant partie du monde. Le fait de sentir, on est les hommes et puis on est l'être suprême, c'est relativement typique de notre société, malheureusement, qui a gagné, qui a vaincu.
Et comment ne pas donc penser à cette phrase de Descartes qui nous disait que grâce à la méthode, nous pourrions nous rendre comme maître et possesseur de la nature.
Tout à fait.
Voilà. On peut dire que Marx est un neveu de Descartes.
Tout à fait, et en fait c'est la question qui est relative aux moyens de production qu'il soulève dans tout le texte, c'est que finalement en critiquant l'organisation capitaliste de la société, il reste sur ce terrain d'organisation scientifique et productiviste.
Oui, mais en fait justement il faut replacer dans le contexte, je pense que Marx lui s'intéresse vraiment plus à l'aspect social de l'homme là.
Oui.
Et notamment à quand il dit l'homme l'être suprême, c'est je pense comme tu disais Anne, pour recentrer l'homme par rapport à l'organisation sociale. Pour éviter toute exploitation de l'homme par lui-même.
Tout à fait.
Il dit il faut renverser toutes les conditions sociales où l'homme est un être abaissé, asservi, abandonné, méprisable.
Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et ensuite, Sylvain, tu nous liras peut-être ce passage-là.
Wohin auf das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind immer Soldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen durch das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor.
Voilà, nous étions en train d'écouter Die Moorsoldaten, les soldats des marées, qui est devenu un chant des déportés, mais en fait c'est le chant de gens qui travaillent comme des forcenés dans les marées et qui sont forcés de le faire. Voilà.
Chemin de pensée sur RCF.
Nous reprenons le dialogue avec Karl Marx. Mm-hmm. Alors on était resté avec Sylvain qui allait nous lire un passage.
Oui. La critique de la religion aboutit à cette doctrine que l'homme est, pour l'homme, l'être suprême. Elle aboutit donc à l'impératif catégorique de renverser toutes les conditions sociales où l'homme est un être abaissé, asservi, abandonné, méprisable.
Voilà. Donc, oui. Voilà, je m'arrête là. Donc ça, c'est la suite, en fait, hein, de ce qu'on avait dit. Donc, alors, donc, simplement, là, on voit bien petit commentaire, une petite parenthèse. Impératif catégorique, ça vous fait penser à quoi? Une petite parenthèse culture philosophique, c'est
Kant.
C'est Kant, hein. L'impératif catégorique, c'est Kant. Hein. Donc là, on voit qu'il reprend un élément du vocabulaire philosophique classique, on va dire. Ouais.
Donc voilà, on voit un peu le projet, là, effectivement, de Marx, hein, je pense, ou en tout cas, son centre d'intérêt, qui est le bonheur, entre guillemets, du peuple.
Alors enfin, justement, je voudrais faire une petite remarque qui va faire fuir tous nos auditeurs, les quelques auditeurs qu'on a fait. C'est-à-dire, ils voient dans la condition de l'homme quelque chose qui est d'ordre ontologique. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'homme est le début et la fin, et ça peut poser un problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut fonder toute une construction de pensée sur le fait que l'homme soit le début et la fin de tout?
Oui, et c'est une question qui est... Ben c'est un peu ce qu'on avait analysé par rapport à ce texte, c'est que cette conception très anthropocentrique, finalement, c'est quelque chose qui est... C'est une inversion en droite ligne de ce qui était presque du discours biblique, où l'homme était certes beau et même très beau, mais qu'il avait besoin de se construire par rapport à une réception de lui-même, finalement.
Alors ça, c'est intéressant. Et Anne, toi, tu voyais peut-être à l'inverse, si je puis dire, qu'il y avait quelque chose de presque christique, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire quand il parle de l'homme qui est un être abaissé, asservi, abandonné, donc à qui il faut vraiment porter secours et lui redonner sa dignité, il y a quand même quelque chose de christique là-dedans, de la parole de Jésus-Christ quand même.
Oui. Voilà. Oui. Et on peut dire que chez Marx, c'est le prolétariat qui va prendre cette place, puisque c'est lui qui va devoir souffrir.
La place sacrificielle, là. C'est lui qui va devoir
tout à fait.
Être...
Et là, on voit une grande différence... avec un autre philosophe du même temps, Auguste Comte, où chez Auguste Comte, on cherche plutôt l'apaisement, enfin, ou plutôt à avancer en ménageant, en dépassant les conflits entre les rétrogrades et les progressistes. Mais il n'y a pas le prolétariat, il n'y a pas une classe qui doit souffrir pour que la rédemption de l'humanité ait lieu. Ouais. Non, vous êtes dubitatif.
Si, c'est, enfin, disons c'est qu'Auguste Comte, moi, j'ai l'impression qu'il essaie surtout de déporter la religion vers une divinité, de la reporter sur l'homme, quoi, de recentrer l'homme.
Mais précisément, c'est intéressant parce que tu vois que chez Auguste Comte, le besoin de religion est un besoin fondamental de l'être humain, pas chez Marx.
Non, c'est clair.
Et là, on peut se poser. Alors, une chose à laquelle vous n'avez pas réagi, nous n'avons pas réagi, c'est à propos du rapport à la nature. Aujourd'hui, on a, je vais dire un problème, mais c'est un euphémisme, on est face à une catastrophe de l'être humain face à la nature. Est-ce que ce n'est pas aussi une conséquence de cette auto-fondation de l'être humain?
Oui, tout à fait. Bah, hein, oui. L'homme pense beaucoup à lui-même et donc n'est pas du tout tourné vers la nature et vers les autres espèces vivantes. Et donc, je crois que maintenant, il va devoir complètement changer son point de vue.
Mais là, dans le contexte du texte de Marc, je ne pense pas que ce soit tellement le problème, en fait. Quand il dit l'homme est l'être suprême, encore une fois, je pense que c'est dans un contexte d'organisation sociale et d'éléments importants à prendre en compte pour organiser la société.
Mais justement,
mais ça ne veut pas forcément dire exploiter ou détruire l'environnement.
L'être suprême, c'est quand même des termes forts. Hein. C'est quand même des termes forts. Et ce n'est pas quelqu'un qui prend les mots à la légère.
Oui. Ah, bah oui. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui. Justement, c'est pour ça qu'il est philosophe. C'est parce qu'il fait très attention à ce qu'il dit. Oui, Nicolas.
Et justement, c'est ce qu'on peut se dire. C'est que, quelque part, dans le discours de Marx, c'est la société qui passe au premier plan. L'impact sur la nature est complètement. Et il n'en parle pas du tout, quoi, finalement.
Et justement, tu as dit discours de Marx. Et j'ai cru que tu allais dire discours de la méthode.
Ah non, non.
Mais pourquoi je te dis ça? Parce que précisément.
Comme maître et possesseur de la nature.
Comme maître et possesseur de la nature, je voudrais faire une petite remarque. Une remarque qui est souvent faite par mon maître en philosophie, François Vezin. C'est qu'il y a chez Descartes une intention secourable. Lorsque Descartes dit « Nous allons nous rendre comme maître et possesseur de l'homme ». C'est pour secourir l'être humain qui est accablé de maux, de maladies, de ne pas pouvoir justement penser parce qu'il est trop accablé par les choses. Mais il ne faut pas voir dans ça quelque chose où Descartes dit « Ah, c'est super, on va faire la révolution industrielle ». C'est plutôt, je dis ça parce que ça peut nous aider à penser qu'après Descartes, il y a un autre chemin qui n'a pas été emprunté, et peut-être que c'est le défi de notre temps d'essayer d'écouter vers quoi d'autre peut mener Descartes.
Voilà. Chemin de pensée sur RCF.
Alors pour finir, peut-être, Sylvain, tu peux lire ce petit passage qui nous a tous interpellés.
Oui. Sur le prolétariat.
Sur le prolétariat, justement, puisque chez Marx, c'est au prolétariat que va être dévolu le rôle dialectique de renverser les choses pour que cette nouvelle humanité advienne.
Le prolétariat ne commence à se constituer en Allemagne que grâce au mouvement industriel qui s'annonce partout. En effet, ce qui forme le prolétariat, ce n'est pas la pauvreté naturellement existante, mais la pauvreté produite artificiellement. Ce n'est pas la masse machinalement opprimée par le poids de la société, mais la masse résultant de la décomposition aiguë de la société, et surtout de la décomposition aiguë de la classe moyenne.
Voilà. Alors, pour finir, je peux vous demander de commenter. Où en sommes-nous, nous, au XXe siècle, par rapport à ça, de cette division à l'infini, de cette décomposition, cette atomisation de la société?
Alors, ça n'a pas été vers le mieux, ça a plutôt été vers le pire.
Oui.
On est en plein dedans. Voilà.
On est en plein dedans.
Ouais,
c'est ça. Tout à fait. Vous voulez commenter c'est-à-dire, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des robots qui personnalisent les réponses, les recommandations, des choses comme ça, est-ce que les techniques que nous développons ne devraient pas nous inciter à être 10 fois plus vigilants, vu qu'elles sont 10 fois plus puissantes encore que celles du temps de Marx? C'est-à-dire que cette atomisation peut être poursuivie encore plus, je veux dire encore plus infiniment, qu'elle ne l'était à l'époque. Qu'en pensez-vous?
C'est tout le rapport au mode de production, enfin, que discute Marx et qu'on continue de penser, c'est que cette puissance qu'on réveille finalement, qu'en faisons-nous finalement?
Oui. Et dans production, on a dit, il y a le ducere, donc il y a l'idée de chemin, de conduire quelque chose. Alors ça aussi, ça doit nous intéresser, nous demander à réfléchir. Qu'est-ce que ce serait qu'une bonne production de nos jours au XXIe siècle?
C'est une vraie question. Et ce qui est intéressant de remarquer dans le passage là, c'est qu'en plus, il dit bien que le prolétariat, c'est pas quelque chose de naturel en fait. Il dit bien que c'est pas juste une pauvreté entre guillemets de fait, tu vois, qui serait une conséquence de peut-être naturelle. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est entretenu, qui est construit.
C'est l'homme qui a servi l'homme.
Donc voilà. Oui. Donc et quelque part, c'est issu évidemment d'une volonté d'un groupe de la population, de quelque part de contrôler une autre partie de la population. Oui.
Oui. On est dans la dialectique maître-esclave de Hegel.
Oui, voilà, donc on retrouve Hegel, à ne pas confondre avec Engels. Hein,
oui,
on
à ne pas
dit,
confondre avec Engels.
Oui, donc Engels est le compagnon de pensée de Marx. Hegel, c'est
un philosophe qui a précédé Karl Marx.
Et voilà. Alors, on va laisser nos auditeurs méditer sur ses pensées et sur ce texte. Merci à Antoine Honora pour la technique, merci à nos auditeurs, et puis rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des Neveux de René.